Alors, peut-être avant de commencer mon exposé sur le thème la démocratie européenne, la grande oubliée, peut-être un mot d'explication pourquoi est-ce qu'un président de la Société européenne de défense, colonel retraité, vient vous parler aujourd'hui de démocratie et d'élection au Parlement européen. Ben, c'est tout simplement parce que si nous pensons, et la présence autour de la table d'une Ukrainienne, si nous pensons que les questions de défense et de sécurité sont redevenues extrêmement importantes, nous avons pris conscience assez rapidement que, finalement, la défense, c'est l'affaire des États. Et donc, si les politiques européennes nous parlent depuis des décennies de défense européenne, ils le font en dépit du bon sens, parce qu'il n'y aura de défense européenne que le jour où il y aura un État européen qui ne peut être par nature qu'un État fédéral. Je pense que plus personne, enfin j'espère que plus personne n'envisage la création d'une sorte d'empire qui soit napoléonien, bismarckien ou quoi que ce soit. Donc, la question de la défense européenne, elle passe par la citoyenneté européenne, par l'établissement d'un État fédéral européen. Et pour que cette défense soit valable, crédible, eh bien, il faut que cet État européen soit légitime, démocratique, conforté par le suffrage national. Donc j'en viens à mon propos principal, qui est de rappeler que l'espoir d'une paix durable suscitée par l'implosion de l'Union soviétique a été malheureusement de courte durée. La déclaration de guerre que Poutine a faite à l'Occident à Munich en 2007, l'invasion de la Géorgie qu'il a ordonnée en 2008, l'invasion de la Crimée et d'une partie du Donbass en 2014, ont fait voler en éclats nos illusions, mais n'ont pas suffi à sortir de leur torpeur les institutions atlantiques et européennes, ainsi que nos chefs d'État et de gouvernement. Ceux-ci sont tout aussi incapables de faire face aux menaces d'aujourd'hui que d'autres l'étaient dans les années 1910, 1930 et 1990. Ils n'ont pas pu empêcher les deux guerres mondiales et ils n'ont pas pu non plus empêcher l'implosion de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, encore une fois, l'Europe se dirige impuissante vers une nouvelle catastrophe. Nos gouvernements ont tenté en vain d'améliorer la politique européenne commune de sécurité et la politique européenne commune de sécurité et de défense, instaurée depuis le traité de Maastricht, etc. Par conséquent, la plupart des États membres de l'Union européenne dépendent de l'OTAN pour leur sécurité et leur défense, c'est-à-dire en pratique s'appuient sur les États-Unis d'Amérique. Ceux-ci se soucient fort peu de nos intérêts. Cela nous coûte cher, en outre, économiquement et politiquement. Il est d'autant plus regrettable que l'OTAN ne puisse pas garantir notre sécurité, car elle est handicapée par la nécessité d'une unanimité au sein du Conseil Atlantique pour agir. Tout le monde, je pense, est aujourd'hui conscient de l'échec persistant de l'Alliance à accueillir la Suède jusqu'il y a quelques jours. La demande de la Suède datait d'il y a 2 ans. Vous imaginez qu'en cas d'agression russe, que pourrait valoir une organisation qui mettrait 2 ans à réagir. L'Union européenne n'a pas été en mesure depuis 2008 de faire face aux crises, qu'elles soient financières, monétaires, migratoires, sanitaires et sécuritaires. Nos écosystèmes sont en péril. La guerre fait rage en Ukraine, mais aussi à Gaza et autour de la mer Rouge, en partie parce que l'Europe, sur la scène internationale, n'existe seulement qu'en tant que puissance commerciale. Le traité de Rome de 1957 sur la communauté économique européenne a en effet confié la compétence en matière de commerce extérieur à un commissaire européen. Mais dans le débat géopolitique, l'Union européenne n'est pas prise en considération. tout simplement parce qu'elle n'est pas un État. Elle n'est qu'une association d'États. Elle n'a pas et ne peut pas avoir de capacité militaire parce que les États ont le monopole des forces armées, le monopole de l'usage légitime de la force. Il n'y a pas de commandement politico-militaire européen, c'est-à-dire un chef d'État ou de gouvernement qui pourrait exercer cette unité de commandement. Nous avons en Europe un haut représentant, mais ce n'est pas un vrai ministre européen des Affaires étrangères, c'est encore moins un ministre européen de la Défense. C'est pourquoi les hauts représentants, les présidents du Conseil européen, les présidents ou présidentes de la Commission européenne ridiculisent le plus souvent 440 millions d'Européens sur la scène mondiale. L'Europe ne génère collectivement que quelques pourcents des capacités militaires américaines ou celles des Chinois ou celles des Russes. Ce n'est pas dû, je ne parle ici non plus à des citoyens européens, mais à des contribuables européens, ce n'est pas dû à un manque d'argent. Car les Européens dépensent entre la moitié et un tiers du budget de la défense américaine. C'est seulement dû à un manque d'efficacité, à un manque d'efficience des dépenses de défense. Pourquoi est-ce ainsi? En Europe, enfin, je vais prendre le problème par l'autre bout, vous savez tous et toutes que du côté de Washington, il existe un bâtiment de forme pentagonale qu'on appelle le Pentagone, et que c'est là que siège la défense américaine. Le problème de l'Europe, c'est que nous avons une trentaine de pentagones, un par État membre. Par conséquent, les armées américaines doivent mettre en œuvre et maintenir, selon l'Agence européenne de défense, 154 types de systèmes d'armes, là où les Américains se contentent d'une trentaine de types différents. Pour prendre quelques exemples assez parlants, je crois, 4 types de frégates, bâtiments de guerre aux États-Unis, une trentaine en Europe, 7 types d'avions de combat aux États-Unis, une trentaine en Europe, etc., etc. Un type de char lourd aux États-Unis, une vingtaine en Europe. Tout cela empêche nos forces armées d'être interopérables. Mais cela pénalise aussi notre base industrielle et technologique de défense. Pensez à la France qui a construit au total une affaire de 400 chars Leclerc, alors que les Allemands en produisaient 3500 exemplaires et les Américains 10 000. La guerre de haute intensité menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 janvier 2022 a enfin suscité une prise de conscience, mais l'action est restée beaucoup trop limitée. L'Europe a fourni à l'Ukraine une aide que je crois précieuse, mais les équipements militaires et les munitions qui ont été donnés étaient beaucoup trop disparates et sont arrivés beaucoup trop tard. Les missiles de longue portée allemands, comme vous savez, n'ont toujours pas été même promis. Les Russes ont donc eu le temps de se retrancher solidement. Les Russes ont, eux, une unité de commandement. Ils ont donc pu relancer leur industrie de l'armement, alors que la nôtre n'a fait que des progrès marginaux. En 2023, l'Europe tout entière n'a pu fournir qu'un tiers des obus de 155 mm promis à l'Ukraine, il manque cruellement sur la ligne de front. Sans vouloir stigmatiser le public présent qui est essentiellement français, je pense, je crois que la manufacture d'armes de Tarbes qui produit des obus de 155 mm est à l'arrêt depuis 6 mois. Si Poutine l'emporte en Ukraine, il pourrait hypothétiquement, s'en prendre à d'autres dans un deuxième temps. Certains ont déjà, j'ai lu un article cet après-midi là-dessus, envisagent un scénario où la Transnistrie, cette partie de la Moldavie, essentiellement occupée par des Russes, où l'armée russe stationne toujours, alors que c'est un État indépendant depuis 1992, l'armée russe stationne toujours en Transnistrie. Il y a également en Moldavie la Gagaouzie, qui est également une sous-région fortement russophone. Donc des craintes existent que la même chose arrive en Transnistrie que ce qui s'est produit en Abkhazie, en Ossétie du Sud, dans le Donbass ou en Crimée. Même dans des États membres de l'OTAN, comme l'Estonie ou la Lituanie, des craintes existent que Poutine pourrait être tenté de protéger les populations russophones de la province de Narva, qui est celle qui est la plus proche de Saint-Pétersbourg et qui est à 80% peuplée de russophones. En Lituanie, c'est le fameux corridor du Suwalki qui pose problème. Toute petite zone de 30 km de long, mais qui sépare la Biélorussie de l'enclave ou de l'exclave pour la Russie de Kaliningrad, pour parler plus correctement de Königsberg, puisqu'il s'agit de l'ancienne Prusse orientale. Poutine a pour le moment un litige important avec la Finlande et la Suède, parce qu'il leur reproche d'avoir rejoint l'OTAN. Et la Finlande accuse Moscou d'orchestrer une crise migratoire depuis plusieurs mois. Donc, un incident de frontière à cet endroit-là pourrait dégénérer. Donc, que ferait Poutine? Est-ce qu'il pourrait s'en prendre à l'OTAN? Ma conviction est que tant que M. Biden est président des États-Unis, il ne le fera pas, mais que si, par malheur, M. Trump devait gagner les élections, il ferait ce qu'il a dit tout récemment, il autoriserait Poutine à faire ce qu'il veut. Poutine sait que l'Europe n'a pas de capacité militaire fédérale et que celles des États européens, y compris la France, sont insuffisantes pour assurer notre sécurité. Ni l'intégration au sein de l'Union européenne, ni la coopération au sein de l'OTAN ne peuvent nous garantir la paix et la sécurité. Mais les élections législatives toutes récentes en Pologne ont montré que s'il y a une volonté populaire, il y a un chemin vers le succès, vers le rétablissement de la démocratie. Les gouvernements européens se sont enlisés depuis 1950. Rappelons-nous, 9 mai 1950, Robert Schuman tient un discours prometteur sur l'Europe. Il annonce dans son discours à deux reprises la création d'une fédération européenne et celle-ci n'existe toujours pas. Et pourquoi? Parce qu'à la fin de son discours, Robert Schuman a dit qu'il réaliserait cette fédération au moyen d'un traité, ce qui est une aberration. On ne peut pas réaliser une fédération d'États par un traité. Pour fédérer les États, et chacun devrait le savoir depuis la fin du XVIIIe siècle, il faut une constitution. La première constitution est celle fédérale, celle de 1787, rédigée par George Washington pour les États-Unis d'Amérique. Nous avons donc un des moyens de renforcer l'Alliance Atlantique et de la rééquilibrer politiquement, et de créer en son sein un pilier européen qui deviendrait équivalent au pilier nord-américain. En termes de produit intérieur brut, nous sommes à peu près équivalents, et en termes de population, nous sommes plus nombreux qu'eux. Ce pilier européen doit, pour être efficace, être un État démocratique et fédéral, ce qui requiert donc, comme je viens de le dire, une constitution, et non pas un traité, parce que un traité est un acte juridique externe à l'État. Il est multilatéral, alors qu'une constitution, c'est un acte interne à l'État. unilatérale. C'est un acte de droit public qui vise à établir, d'une part, les droits fondamentaux des citoyens, deuxièmement, les principes sur lesquels repose la légitimité du pouvoir politique, troisièmement, qui définit l'architecture générale des institutions, et qui, enfin, est un acte qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes de l'État. Vous percevez, même si vous n'êtes pas familier des questions juridiques, que tout cela est très différent d'un traité. Certains ont plaidé pour la mise en place d'une confédération européenne, sur l'exemple historique de la Confédération suisse, et parce qu'ils oublient que la Confédération suisse n'a jamais très bien fonctionné, et elle s'est transformée en fédération après la guerre civile du Sonderbund en 1848. Les confédérations, soit donc comme les États-Unis d'Amérique ou la Suisse, se transforment en fédération ou elles se dissolvent. C'était le cas de la Confédération des États indépendants qui a été créée à la fin de l'URSS. Elle n'a tenu que quelques mois. Nous savons donc que la méthode de fondation d'un État fédéral, souverain et démocratique, rassemblant des citoyens unis dans la diversité, impose qu'à un moment donné, des délégués des États constituants se rassemblent et adoptent une constitution. Il faut séparer, selon les principes définis par Montesquieu, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il faudrait qu'un pouvoir législatif, pour qu'il représente à la fois les citoyens et les États membres, soit bicaméral, avec une assemblée populaire et une assemblée des États. Et donc, si l'Europe voulait s'inspirer de ces principes, elle pourrait enfin nous garantir, mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, la paix et la sécurité, maintenir nos droits et nos libertés fondamentales. Elle pourrait surtout rendre la place qui revient à l'Europe sur la scène internationale, compte tenu de sa puissance économique, mais surtout de sa civilisation. Pour faire enfin de l'Europe une puissance dissuasive mais pacifique, les gouvernements européens devraient, en 2024, et je crains qu'il soit déjà fort tard, il ne reste plus que
85 jours. Enfin, 2024 se poursuivra après.
Oui. Enfin, il faudrait donc mettre en place une gouvernance fédérale en Europe et prendre un certain nombre de mesures appropriées. La seule méthode, me semble-t-il, qui convienne n'est pas celle de Merlin l'Enchanteur. On ne va pas sortir une baguette magique et faire en sorte que, dans 85 jours, les représentants de 27 États membres décident tout à coup de dire « We the people », « Nous le peuple », refaire le coup de Versailles en 1789 et décide de mettre en place une constitution fédérale. Ça me paraît irréaliste. La méthode qui fonctionne existe pourtant. Vous savez que l'Union européenne ne s'est pas construite en un jour. Elle a commencé avec 6 États, avec le discours de Schuman et la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais c'est peut-être moins en France qu'avant les 6, il y a eu les 3. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 3 pays, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, ont créé le Benelux avec une union monétaire et puis finalement une union douanière qui a été non seulement la préfiguration des 6, mais a aussi été la première étape de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone Schengen. Le Benelux a supprimé ses frontières intérieures en 1975 pour parler français et non pas belge. Et ce n'est que 10 ans plus tard que l'Allemagne et la France ont rejoint et ont signé un papier à Schengen à 5. Les 6 sont devenus 27 après avoir été 28. Les 5 de Schengen sont devenus aujourd'hui 23 États membres et 4 États associés. 25. Et puis peut-être.
Il y a Chypre et l'Irlande maintenant.
Ne nous battons pas sur les chiffres, mais ça montre bien. Et alors, il y a la zone euro qui comptait 9 États membres lors de la signature du traité de Maastricht et qui en compte aujourd'hui 20 depuis l'adhésion de la Croatie en janvier 2023. Donc ça montre bien qu'un petit noyau plus convaincu, plus désireux d'agir, peut établir des bases solides et puis automatiquement la tache d'huile s'étend. Et c'est ce que je souhaiterais que l'on fasse également dans le domaine de la sécurité et de la défense. Des membres du Parlement européen seront donc élus en juin 2024. Il faudrait donc qu'un noyau dur d'État se constitue et que les parlementaires européens de ces États-là se chargent de se déclarer Assemblée constituante, rédigent et adoptent une constitution fédérale qui, bien entendu, après, devra aussi être ratifiée par les États constituants.
Et les citoyens.
Et les citoyens, bien entendu, puisque il faut rendre aux citoyens leur souveraineté qui a été un peu partout confisquée. Je crois qu'il n'y a qu'en Suisse que la Constitution prévoit que la souveraineté est répartie entre le Conseil fédéral, les cantons et les citoyens. Il faudrait donc que l'Assemblée constituante élabore la Constitution fédérale et commence par lui trouver un nom. Des débats sans fin ont lieu entre fédéralistes pour savoir s'il faut parler d'États-Unis d'Europe, de Fédération européenne ou de République fédérale Europe. À mon sens, ça n'a absolument aucun intérêt. L'important, c'est qu'il y ait effectivement un État démocratique légitimé par le suffrage universel et constitué sur un mode fédéral. Cela implique de définir quels sont les domaines de compétences entre les différents niveaux de pouvoir dans le respect du principe de subsidiarité pour maintenir à la fois la souveraineté du peuple et l'équilibre entre les pouvoirs fédéraux au niveau européen, national et régional. Ce qui est pour moi important dans le contexte géopolitique international actuel et compte tenu de la guerre qui fait de nouveau rage en Europe, c'est que l'Europe fédérale prenne en charge notre sécurité et notre défense. Il faudrait donc constituer, comme aux États-Unis d'Amérique, des forces armées fédérales qui auraient pour tâche de compléter et non pas de remplacer les armées des États. Vous savez qu'aux États-Unis, les États ont des National Guards. Eh bien, chez nous, je n'envisage pas de supprimer l'armée française ou même l'armée belge, mais je pense qu'il y a des lacunes évidentes en matière de capacité militaire. Je prends par exemple le transport stratégique, qu'il soit maritime ou aérien, eh bien là, l'Europe devrait agir plus rapidement. Je pense aussi à la défense antimissile, dont on voit les ravages que ça peut faire en Ukraine, etc., etc. Une Europe fédérale pourrait aussi beaucoup plus efficacement redynamiser notre industrie de défense et produire, par exemple, en temps voulu, les munitions dont nos amis ukrainiens ont grandement besoin. Nous pourrions ainsi réaliser, grâce à une unité de commandement politico-militaire, des économies d'échelle substantielles et des gains de productivité et d'efficacité tout à fait considérables, ce qui rendrait financièrement viable le réarmement de l'Europe et la constitution d'un pilier européen crédible au sein de l'Alliance. En 2014, j'étais déjà colonel retraité, mais j'avais été recruté pour devenir conseiller de défense du Premier ministre de Belgique. Et j'ai donc à ce titre participé au conseil de l'Alliance Atlantique de Cardiff, au pays de Galles, où le président Obama a insisté pour que les Européens ne dépensent plus pour la défense en moyenne 1% de leur produit intérieur brut, mais bien 2% de leur produit intérieur brut. À l'époque, j'avais fait une note pour mon Premier ministre, lui disant que c'était une aberration, parce qu'avec 1% du produit intérieur brut de l'Europe, nous avons un budget de la défense qui correspond à peu près à celui de la Chine. Et donc, on sait parfaitement se défendre avec 1% du PIB. Si vous ajoutez 1% de plus au PIB de la défense, eh bien, vous supprimez ce pourcent dans l'éducation, dans la sécurité sociale, dans la culture, dans l'emploi, dans tout un tas d'autres secteurs d'activité. Et il ne faut le faire que si c'est absolument indispensable, à mon sens. Bien sûr, si on crée des institutions fédérales européennes, elles devront disposer des ressources propres. Elles ne doivent pas, comme aujourd'hui l'Union européenne le fait, aller mendier auprès des États membres à chaque fois qu'elles veulent prendre une action dans un domaine quelconque. Et donc, les ressources propres de l'Europe fédérale devraient être basées sur un système fiscal innovant et égalitaire, et par exemple envisager au niveau européen la taxation des multinationales, notamment dans le secteur numérique, qui aujourd'hui échappe énormément à l'impôt, scandaleusement à l'impôt. Une telle fiscalité permettrait de financer les politiques précitées et de mener aussi une politique budgétaire qui serait susceptible de soutenir la politique monétaire menée avec beaucoup de mérite et de succès, je pense, par la Banque Centrale Européenne. La zone monétaire européenne, on n'en est pas assez conscient en Europe, reste extrêmement fragile parce qu'il n'y a pas d'État et de budget fédéral en Europe. Pour rétablir la paix en Europe, pour en faire une puissance souveraine, autonome, indépendante, pacifique mais respectée, nous devons, en tant que citoyens, agir, et c'est urgent. Les élections au Parlement européen de 2024 devraient être l'occasion pour nous, citoyens européens, d'exiger des candidats qu'ils s'engagent à faire du prochain Parlement européen l'Assemblée constituante dont l'Europe et dont nous avons besoin. Merci pour votre attention.